On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous nous inclinons devant ta révélation, ta parole. Seigneur, c'est inspiré par une révélation du Père que Pierre a pu faire cette déclaration. Et celui qui vient à toi, c'est celui que tu attires, c'est celui à qui tu te révèles, c'est celui à qui tu te fais connaître. Ma prière, Père, c'est que ce matin, tu viennes ouvrir nos yeux. Et si au milieu de nous, quelques-uns ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus, comme leur sauveur personnel, viens te révéler à eux, Père. Viens te révéler à eux, Seigneur Jésus. Et viens par ton Esprit Saint appliquer cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Sois avec ton serviteur, afin que je dispense droitement ta parole, Seigneur. Humblement aussi, sachant que comme Pierre, Seigneur, il m'arrive de parler inspiré par Dieu et parler inspiré par la chair, Seigneur. Mais viens au contraire nous bénir ensemble ce matin dans ta parole. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Simplement vous mentionner, j'aimerais vous inviter, vendredi, j'avais à cœur de prendre un temps pour préparer la soirée, mais aussi pour se préparer. Vendredi, c'est Vendredi Saint. Il y a de belles traditions dans l'histoire du christianisme en préparation pour la Pâque. Et puis, c'est vraiment une initiative personnelle, mais j'aimerais ça vous inviter, si vous êtes disponible, à vous joindre à moi. Je vais être ici toute l'après-midi, vendredi, de 1h à 5h, et pour prier, simplement, pour méditer ensemble, prier sur ce que Christ a fait pour nous à la Pâque, pour examiner nos cœurs devant le Seigneur, le louer, l'adorer pour la beauté de son sacrifice et évidemment pour intercéder aussi pour la soirée afin que le Seigneur vienne sauver des âmes à travers ce concert, faire avancer des individus vers la croix progressivement aussi. Et puis j'aimerais ça vous inviter, si vous êtes dans l'impossibilité de vous joindre à nous, de considérer de prendre un temps dans la journée pour prier, pour jeûner aussi. Prendre un temps de jeûne pour chercher la face de Dieu. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas faire toute la journée, peut-être que vous pouvez jeûner sur l'heure du dîner, puis casser votre jeûne au souper, vous préparer pour la soirée, où j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu d'énergie pour assister à ce concert-là, un bon concert de gospel. Mais donc, je vous invite, si vous ne pouvez pas venir, tout simplement à prendre un temps de jeûne pour chercher la face de Dieu, un temps de prière dans la journée au travail, sur l'heure du dîner, et méditer sur cette fin de semaine de la Pâque, où Christ est venu s'offrir en sacrifice pour nous et prier pour la soirée aussi. Moi, je vais être ici de 1h à 5h vendredi après-midi dans la salle ici, puis je vais accueillir ceux qui peuvent venir prier avec nous. Alors, c'est juste une invitation. On arrive dans ce passage de Matthieu 16, les versets 13 à 28. Il y a beaucoup de matière là-dedans, il y a beaucoup de matériel. On aurait pu facilement prêcher plusieurs sermons sur le passage, mais volontairement, j'ai gardé quand même le passage très long parce que il se tient. C'est un passage qui est très important dans l'histoire du salut. C'est un moment clé dans la révélation de la personne de Christ. Et donc, c'est un passage très important. Un simple commentaire en commençant, si on regarde le verset 13 ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus se retire encore une fois en terre païenne. Je l'ai mentionné il y a deux semaines, Normand l'a mentionné la semaine dernière, mais Matthieu passe des messages à travers ça. Et lorsqu'on a vu ensemble il y a deux semaines que Jésus s'était retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon, il avait essayé encore une fois de parler avec les docteurs de la loi, avec les Juifs, ceux qui auraient dû interpréter les signes des temps comme étant l'accomplissement des prophéties. Ils n'avaient pas trouvé cette foi chez eux. Il se retire dans le territoire de Tyr et de Sidon et il va trouver cette foi chez une Cananéenne, celle qui n'est pas censée croire en Jésus en principe. Elle ne fait pas partie du peuple élu. On a le même mouvement qui se passe ici, où Jésus va se retirer encore une fois dans un territoire païen. Il va prendre un temps à l'écart avec ses disciples, et c'est là que ses disciples vont faire pour une première fois cette déclaration aussi claire et absolue. Le temps est accompli, tu es le Messie. Ça va se passer en terre païenne. parce que Matthieu est toujours en train de nous préparer à Matthieu 28. Il est en train de nous préparer à l'idée que l'Évangile va être annoncé à toutes les nations de la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ensemble. Il n'y a pas beaucoup de Juifs ici. Mais nous sommes en train de célébrer le Christ, Jésus de Nazareth, comme étant le Sauveur des hommes. Maintenant, c'est un passage extrêmement important dans l'histoire du salut pour plusieurs raisons. Évidemment, la première, c'est la déclaration que Pierre va faire au verset 17, au verset 16. Jésus pose la question, il demande qu'est-ce que les gens disent à mon sujet au juste. Puis là, bon, bien, il y a toutes sortes d'éléments, puis ce sont même pas tous faux parce que Jésus est en effet l'accomplissement de plusieurs prophéties. Mais lorsqu'on arrive au verset 16, Pierre va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est la première fois que les apôtres, que les disciples vont le déclarer aussi clairement. C'est un moment clé que Jésus va souligner à son tour. C'est la première déclaration aussi ferme, aussi claire. Tu es le Messie. Les temps sont accomplis. Nous attendions après toi depuis des siècles. Maintenant, les temps s'accomplissent. C'est toi le Messie. C'est comme si jusque-là, les apôtres étaient pas mal sûrs, pas mal certains. Ils avaient bien l'impression que, mais ils attendaient des choses. Et là, par une révélation du Père, Pierre va faire la déclaration sans équivoque. Tu es le Messie, le Sauveur que nous attendons. Tu es celui qu'ont annoncé les prophètes. Il y a tout ça dans cette déclaration. Alors, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire du salut. Vous pourriez, en quelque sorte, prendre toutes les Écritures et les trancher avec ce passage-là, en deux. Tout le reste annonçait ça. Pierre dit, c'est maintenant. À partir d'ici, l'histoire change complètement. Parce qu'il déclare qu'il est le Christ et qu'il reconnaît que le Sauveur qui devait venir réparer tout ce qui a été brisé en Éden par le péché est enfin arrivé. C'est lui notre Sauveur. Deuxièmement, Jésus annonce son Église. Tournez avec moi, juste un petit peu plus loin au verset 18. Maintenant, Jésus prend cette déclaration et là, Jésus dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Le mot « Église », la majorité d'entre vous est familier avec ça, c'est simplement un mot grec qui veut dire « assemblée ». Ça ne parle pas de bâtiment, ça ne parle pas de briques, de mortier, ça parle d'une assemblée, ça vient du mot grec « ecclésia », c'est l'assemblée. Et Jésus annonce ici qu'il va bâtir sa propre assemblée. C'est très important dans l'histoire du salut. On est en train de tracer une ligne, encore une fois, dans le sable, parce que Jésus est en train de dire « tu sur cette déclaration, je vais bâtir mon peuple, mon assemblée. » Et ça nous dit quelque chose par rapport au peuple juif. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était donné un peuple. C'était le peuple juif. L'assemblée de Dieu, c'était censé être le peuple juif. Maintenant, lorsqu'on lit les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, on comprend que c'est peut-être pas tout le monde qui était de nationalité juive, qui faisait vraiment partie du peuple de Dieu. On a des indices de ça, même des jugements qui sont prononcés. Ce n'est pas finalement parce que tu es né de descendance juive que tu vas marcher selon Dieu. Mais tout de même, jusqu'à la venue de Jésus, le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et là, Jésus déclare quelque chose. Il s'adresse à un juif et lui dit, « Je vais bâtir mon assemblée à moi. » Est-ce que tu fais partie de l'assemblée de Jésus-Christ? Jésus a promis, voilà 2000 ans, qu'il allait se donner un peuple à lui. Est-ce que tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ? As-tu cette certitude, cette assurance? Peux-tu dire en quel titre tu pourrais faire partie de cette assemblée, de ce peuple? Il a promis, voilà 2000 ans, qu'il se bâtissait une Église. Est-ce que tu fais partie de son peuple ou non? Parce qu'en déclarant cela ici, on se replace dans le contexte. Jésus est allé vers ceux de sa nation, les Juifs. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle et plusieurs d'entre eux, pour ne pas dire la majorité, ne veulent pas croire en lui comme étant le Messie. Jusqu'à ce point-ci, c'est très clair à tout le moins que la majorité des docteurs de la loi ne veulent pas reconnaître en lui le Messie. Alors Jésus se retire à l'écart, il s'en va dans un territoire païen, et puis il repose la question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis vous? » Et Pierre dit, tu es le Christ. Alors là, Jésus dit, je vais bâtir mon peuple sur ça. On va venir à l'interprétation de ce verset, ce ne sera pas long. Mais ça implique que ce ne sont pas tous les Juifs qui vont faire partie de son peuple. Ça implique qu'il va y avoir une déclaration de foi à faire pour faire partie de son peuple. Ce ne sont pas tous les Juifs qui vont être sauvés. Et si ce ne sont pas tous les Juifs qui font partie du peuple de Dieu, qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, à plus forte raison, ce ne sont pas tous les païens qui font partie de l'Église. À plus forte raison. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu fais partie de l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir? Est-ce que tu as cette assurance dans ton cœur que tu fais partie de l'Église, de son peuple qu'il est en train de bâtir, qu'il a choisi? Les docteurs de la loi n'ont pas cru. Ils n'étaient pas prêts à faire une déclaration semblable, celle que Pierre a faite. Pierre l'a fait, Jésus annonce qu'il se donne un peuple, qu'il se bâtit une assemblée. Sur cette déclaration, je vais faire partie de cette assemblée ou non. Maintenant, Jésus fait un jeu de mots ici avec le nom de Pierre, et beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu des prédications sur ce passage, ou vous l'avez étudié à cause de notre histoire ici au Québec, évidemment, avec le catholicisme. Jésus fait un jeu de mots parce que Pierre vient juste de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » en regardant Jésus. Fait que là, Jésus le prend au vol puis il dit « Bien, OK, tu dis que moi je suis le Christ, moi je te dis que tu es Pierre. » Et sur ce roc, et là vraiment Jésus fait un jeu de mots avec le qu'il avait donné à Simon, il lui dit « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage-là? Qu'est-ce qu'il est en train de déclarer ici? Parce que si vous êtes familier un peu avec l'histoire de l'Église catholique romaine, mais vous savez que ce passage-là est crucial pour instaurer toute la papauté. Maintenant, si on reste dans le passage, si je m'en tiens au passage ici, je suis obligé de faire une observation, au moins une. Avant même d'expliquer le texte, il n'y a absolument rien dans ce passage qui nous indique que Pierre devait avoir des successeurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Il n'y a rien dans le passage ici. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre, mais il n'y a rien dans le passage ici qui amènerait le principe d'une succession de Pierre. Pierre 1, Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4, Pierre 5 jusqu'à aujourd'hui. Ni ici, ni ailleurs dans les Écritures. D'accord? On n'a pas regardé le texte encore, on n'a pas essayé de le comprendre. Je fais juste adresser cette question des successeurs de Pierre. Alors, c'est sûr que si je vais vers la tradition de l'Église catholique romaine, puis que je m'en vais fouiller dans la tradition, je vais pouvoir bâtir, je vais pouvoir construire une doctrine pour éventuellement défendre cette idée que Saint-Pierre de Rome, le pape actuel et l'héritier de Pierre qui était allé à Rome, c'est l'évêque par-dessus tous les autres évêques, c'est le digne successeur de Pierre, et on remonte jusqu'à ce passage-là, ça me prend la tradition pour pouvoir échafauder une doctrine semblable. Mais si au contraire, je dis ça ici, ce sont les saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. La même que vous allez trouver, soit dit en passant, dans une église catholique, d'accord? Ce sont les saintes Écritures, c'est la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et si je dis, voici la parole de Dieu, voici la règle de foi sur laquelle je vais bâtir ma foi, je ne peux pas bâtir une doctrine semblable. J'ai encore le dilemme de comprendre le passage, mais je ne peux pas bâtir une doctrine semblable. J'arrive à une doctrine vraiment étriquée si j'essaie de m'en tenir seulement aux Saintes Écritures comme règle de foi. Alors, je reviens vers le passage et vers cette déclaration que Jésus fait sur la personne de Pierre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, si je m'en tiens à la parole? De quoi parle Jésus lorsqu'il dit que Pierre est un roc sur lequel il va bâtir son Église? Quand j'étudiais le passage cette semaine, tout de suite, l'idée qui me venait à l'esprit, c'est « Oui, mais est-ce que ce n'est pas Jésus le rocher? » Est-ce que ce n'est pas Jésus le roc sur lequel notre foi est bâtie? Pourquoi ici ce serait Pierre le roc? De quoi il est en train de parler ici? De quoi il est question ici? Est-ce que vraiment Jésus serait en train d'enseigner qu'il va bâtir son peuple sur un homme? Pierre? C'est d'autant plus étrange que ce Pierre-là, qui, inspiré par Dieu, fait une déclaration extraordinaire. Quelques versets plus loin, Jésus va devoir s'adresser à lui en disant « Arrière de moi, Satan! » Ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu, ça vient des hommes. C'est la pensée des hommes. Ouf, OK. C'est pas un surhomme. C'est pas un surhomme. De quoi il est en train de parler? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il va bâtir son église sur un homme, sur Pierre? De quoi il est en train de parler ici? Là, je sais que je suis dans une église protestante, puis je vais peut-être faire friser un peu des oreilles. Restez avec moi, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de mon explication, d'accord? Est-ce qu'il est vraiment en train de dire qu'il va bâtir son église sur Pierre? Ma réponse à moi, oui et non. Oui et non. Dans un sens, oui, dans un sens, non. Je crois que Jésus est premièrement en train de faire allusion à la déclaration que Pierre fait. Je crois qu'il est en train de faire allusion à cette déclaration qui a été donnée à Pierre. Jésus s'adresse aux apôtres et puis il dit « Qui dites-vous que je suis? » Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est comme si Jésus avait dit « Ah! Ha! Là-dessus, je vais bâtir mon Église. » Et littéralement, c'est ça qui va se passer dans toute la suite du Nouveau Testament. Les apôtres vont devenir les détenteurs de l'enseignement de Jésus. Plus loin dans les Écritures, Jésus va même leur promettre qu'il va, par son esprit, leur rappeler tout ce qu'il a enseigné. Et sur le consensus des apôtres, on va définir le credo de la foi, c'est ça qu'on va faire. Ils sont là pour s'assurer que ce qu'on enseigne sur Jésus est vrai. Et les apôtres ont été appelés à jouer un rôle crucial. Alors, je crois que Pierre est juste un des représentants des apôtres ici, en un sens. Cette déclaration que Pierre fait, tous les apôtres vont en venir à le faire. Et donc, d'une certaine manière, ils vont devenir fondateurs pour toute l'Église. Jésus est en train de dire, sur votre credo, sur votre déclaration de foi, je vais bâtir mon Église. Parce qu'il faut reconnaître qu'il est le Christ. Fait que je pense que Jésus fait premièrement allusion à cette déclaration de foi qu'il fait. Et il dit, c'est là-dessus que je vais le bâtir. Mais en même temps, il faut reconnaître que les apôtres ont joué un rôle vraiment spécial dans l'histoire de l'humanité, qu'aucun autre homme a été appelé à jouer. Aucun autre homme. Dans Éphésiens 2:20, vous pouvez tourner avec moi rapidement, dans Éphésiens 2:20, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Il est en train de parler de l'Église ici et de chacun des membres du corps de Christ, de l'Église. Et il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Ces hommes ont reçu de Jésus-Christ la vérité. Et ces hommes devaient valider ce qui était enseigné. Et c'est pour ça que plus tard, les pères de l'Église, lorsque le Nouveau Testament a été rassemblé, une des règles qu'ils se sont données, c'est il faut que les livres qu'on va reconnaître comme étant inspirés de Dieu, il faut qu'ils aient été écrits soit par un des apôtres, soit par un des proches des apôtres, pour être approuvés par les apôtres. C'était une règle qu'ils se sont donnée parce qu'ils reconnaissaient chez les apôtres des gens qui avaient été choisis par Jésus pour pouvoir protéger et enseigner la vérité. Et plus fort que ça, encore plus littéral que ça, dans Apocalypse 21:14. Et là, je sais qu'on est dans un langage imagé, c'est symbolique, c'est dur de voir qu'est-ce qui est littéral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais à la toute fin du Nouveau Testament, dans Apocalypse 21:14, alors qu'on a une description qui nous est faite de l'Église qui est la Jérusalem céleste, qui est une ville, c'est vraiment difficile de saisir toutes ces images. Mais voici ce qui est écrit alors qu'on a la description de cette ville qui est en quelque sorte l'épouse de l'agneau. Voici ce qui est dit dans Apocalypse 21:14. La muraille de la ville, ces gens qui voient ça dans une vision. J'ai hâte de voir ça pour comprendre tout ça. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Est-ce que Jésus a bâti son Église sur Pierre, sur les apôtres? Ben, oui et non. Certainement pas dans le sens qu'ils sont venus prendre la place de Jésus. Certainement pas dans le sens que ces hommes-là seraient sans péché. Pierre en est la meilleure illustration lorsqu'on continue à lire le Nouveau Testament. Certainement pas dans le sens qu'ils deviendraient infaillibles. Seule la parole de Dieu l'est. Mais en même temps, ils étaient là pour annoncer la vérité. Et sur leur déclaration, on devait mesurer la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'ajoute rien aux Saintes Écritures. Et tous les écrits qui peuvent être apportés après, qui viennent contredire ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, nous le rejetons du revers de la main, littéralement, parce que les 12 apôtres ont enseigné, ont validé, ont vérifié, et voici l'Évangile pur. On s'arrête là. On bâtit notre foi seulement sur ce qu'ils ont enseigné. Parce que Jésus avait promis qu'il se servirait de ces hommes-là pour bâtir son Église. Alors, je pense que Jésus est en train de faire, premièrement, allusion à la déclaration, mais il y a quelque chose de plus, ces hommes-là avaient un rôle spécial à jouer dans l'histoire de l'Église. Et lorsqu'on continue à lire le passage, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Encore une fois, on pourrait passer beaucoup de temps à étudier tout le passage, mais de quoi il est en train de parler ici? Mais premièrement, il faut remarquer que cette autorité qui est donnée ici n'est pas donnée seulement à Pierre. Si vous allez un tout petit peu plus loin dans Matthieu 18, verset 18, là Jésus s'adresse, il parle de toute l'assemblée, il est dans le contexte de la discipline, si vous n'êtes pas familier avec tout ça. Au milieu de l'Église, on est appelé à veiller les uns sur les autres. Parce que lorsque Stéphane s'est fait baptiser, lorsque Régent s'est fait baptiser, lorsque Esther s'est fait baptiser, elle a déclaré devant nous croire dans l'Évangile de Jésus-Christ et désirer marcher avec Christ pour Seigneur. Et nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, pour s'encourager. Et lorsque Yannick commence à déraper, à s'éloigner de ce que le Christ nous a enseigné comme règle de vie, comme règle de marche, mes frères, mes sœurs sont censés intervenir par affection pour moi, venir me voir puis me dire, Yannick, qu'est-ce que tu fais? Tu as déclaré que c'était ton Seigneur et là, tu es en train de glisser, tu es en train de t'éloigner, reviens à l'Évangile, reviens à la croix, marche avec lui pour Seigneur. Et si je le fais pas, ils sont censés aller chercher un frère pour venir me reprendre aussi. Et éventuellement, même toute l'assemblée est censée donner écho à cette voix-là pour dire, Yannick, qu'est-ce que tu fais? Tu ne reconnais plus le Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu ne veux plus marcher dans la sainteté de ses voies. Et là, à cette église-là, Jésus dit au verset 18, Matthieu 18, 18, « Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » D'une certaine manière, après que les apôtres aient enseigné la vérité, l'Église doit maintenant transmettre cette vérité. Et c'est non seulement d'annoncer l'Évangile, et lorsque je crois dans l'Évangile, j'entre dans l'Église, je suis sauvé, c'est non seulement ça, mais c'est de veiller après à ce que l'Évangile soit vécu dans la vie des croyants aussi. Et lorsqu'une Église intervient, et je fais vraiment un lien ici avec ce qui est dit à Pierre, quand une église intervient dans la vie d'un individu pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais, mon ami? Tu as professé Christ, puis là, tu es en train de t'éloigner de Christ. » La personne qui est placée sous ce jugement-là devrait trembler. Devrait trembler à cause d'un passage comme celui-là. Et réaliser que l'Église aujourd'hui doit transmettre la vérité de l'Évangile avec tout ce qu'elle implique dans nos vies comme marche dans la sainteté. Et cet individu devrait trembler et voir un jugement de Dieu sur sa vie pour qu'il se repente, pour qu'il revienne repentant, qu'il se détourne de son péché et qu'il revienne dans la communion des saints, dans la communion de l'Église. Voyez-vous, cette espèce d'autorité est même transmise à l'Église dans son exercice, dans sa vie, parce que dans Matthieu 18, c'est toute l'Assemblée qui doit l'exercer, cette autorité-là. Mais cette autorité nous vient premièrement d'une déclaration comme celle de Pierre, de ce qu'on enseigne la vérité sur Jésus-Christ. Et là, si vous êtes familier avec l'ensemble du Nouveau Testament, je fais juste une parenthèse pour dire que Pierre, même d'une, d'une manière très spéciale, a été utilisé par le Seigneur parce que c'est lui qui a ouvert la porte aux nations. Il a été utilisé par l'Esprit-Saint pour être envoyé auprès de Corneille, un païen. C'était pas une Corneille, c'est son prénom. Il a été envoyé auprès de Corneille, qui était un païen. Et Pierre a été envoyé là, puis il a vu qu'il y avait une œuvre de l'Esprit, puis il a dit, « Mes amis, c'est vrai, l'Évangile est ouverte aussi, annoncé aussi aux païens. » Il est revenu à Jérusalem troublé, excité de voir que Dieu confirmait par des miracles qu'il devait annoncer l'Évangile aux païens. Donc Pierre a été là vraiment pour ouvrir la porte aux païens. Alors Pierre, d'une manière spéciale, a été honoré par cette déclaration qu'il a faite et a été choisi. Mais je pense que ça s'arrête là. Je ne pense pas qu'on doit y voir plus. C'est certainement pas une succession jusqu'à aujourd'hui. C'est indéfendable à la lumière des Écritures. Si je reviens à l'histoire du salut, ce passage-là est important dans l'histoire du salut parce qu'on a la déclaration de Pierre. Ce passage est important dans l'histoire du salut parce que Jésus annonce qu'il va bâtir un peuple, il va se donner un peuple, une nation à lui. Le passage est important parce qu'on voit que cette Église-là va être bâtie sur le fondement des apôtres, leur déclaration de foi, ce qu'ils nous ont transmis à travers le Nouveau Testament. C'est sur ça que Jésus-Christ bâtit son Église. Et c'est sur notre adhésion ou non à cette déclaration-là qu'il bâtit son Église. Mais le passage est important aussi parce que Matthieu nous dit, au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. » À partir du moment où le Père révèle à Pierre qu'il est le Christ, que Jésus est le Christ, Jésus commence à enseigner plus clairement. Il leur a déjà dit, si vous retournez avant dans Matthieu, c'était déjà là. Mais là, il commence à enseigner plus directement. Les temps ne sont pas accomplis encore, remarquez, parce qu'au verset 20, il a dit, « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Les temps ne sont pas accomplis, il faut que ça se passe à la Pâque. Il faut vraiment accomplir à la Pâque tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament par toutes les fêtes de Pâque qui étaient célébrées avec les sacrifices qui se produisaient à Pâque. Il faut que l'agneau soit immolé, Jésus, qu'il soit immolé à la Pâque. Les temps ne sont pas tout à fait accomplis, mais déjà, à partir du moment où il y a cette déclaration, Jésus commence à enseigner plus clairement. Il leur dit, « Maintenant, comprenez. » Je suis le Messie. Ce Messie-là est un Messie souffrant. Je suis le roi que vous attendez, qui vient sauver Israël. Mais je viens sauver premièrement Israël de son péché. Et ça va se faire par mes souffrances à la croix. Le passage est important parce que Jésus annonce plus clairement que jamais encore qu'il doit finalement être crucifié et qu'il doit ressusciter le troisième jour. Le passage est important aussi dans l'histoire du salut parce que un tout petit peu après, Jésus va dire au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun ses œuvres, selon ses œuvres. » Alors non seulement Jésus reconnaît qu'il est le Messie, qu'il va se donner un peuple, que ce peuple-là, il va le racheter au prix de son sacrifice et de sa résurrection, mais il annonce aussi son retour final. Dans ce passage, vous avez un résumé complet de l'histoire du salut à partir de la venue de Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il est le Sauveur, le Messie que nous attendions. Il est venu se racheter un peuple, une Église qu'il va fonder. Cette Église va être bâtie sur le fondement des apôtres, la déclaration de foi de Pierre. Il va racheter ce peuple au prix de son sang, ressuscité d'entre les morts, repartir dans la présence du Père pour revenir un jour dans sa gloire et rassembler les siens. Revenir pour juger les hommes et rassembler les siens, c'est ça qu'il va faire. Vous avez un résumé de toute l'histoire du salut. C'est vraiment un passage important. C'est un passage important aussi parce que non seulement il nous présente l'histoire du salut, mais il nous parle de Christ comme jamais auparavant dans les Évangiles aussi. Voyez-vous, lorsque Jésus dit à Pierre au verset 18, « Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, mon assemblée, mon peuple », Jésus est en train de s'élever comme il ne l'a pas fait encore. Dans l'Ancien Testament, Yahvé, l'Éternel, s'était donné un peuple. Il avait racheté ce peuple de l'esclavage de l'Égypte. C'était Dieu. C'est très clair dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui se rachète un peuple à prix de miracles, de signes, très, très puissants. Il va se racheter un peuple, il va lui donner une terre. Tout ce peuple-là était annonciateur de quelque chose de plus grand qui allait venir encore. Parce que lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, on voit bien que tout un peuple, hein? Toute une victoire, wow! Mais tout ça devait annoncer quelque chose de plus grand. C'est qu'un jour, Yahvé viendrait Emmanuel, Dieu parmi nous, qu'il se rachèterait un peuple, pas pour qu'il célèbre des sacrifices d'animaux dans un temple fait de main d'homme, mais un peuple qui serait sauvé par son propre sacrifice, son propre sang versé. La divinité de Christ est à peine voilée dans ce passage-là. Christ est élevé comme ce Yahvé qui vient se racheter un peuple maintenant, au prix de son propre sang. Et on voit très bien, lorsqu'on relit tout l'Ancien Testament à la lumière de cette déclaration-là, que tout ça n'était qu'annonciateur. C'était vraiment un avant-goût des prémices qui annonçaient là où il manifesterait vraiment sa gloire, en se rachetant un peuple au prix de son propre sacrifice. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il parle de son retour, car le Fils de l'homme, Jésus se servait souvent de cette expression-là en parlant de lui, je ne m'étendrai pas sur l'expression, mais il dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. » Oh, Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Mais il va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Jésus n'est pas qu'un ange. Jésus est tellement au-dessus des anges, de toute créature, qu'il vient et les anges le servent. Il vient avec ses anges. Les anges appartiennent à Jésus-Christ. Et ils sont là pour rassembler son peuple. Et il vient pour juger les hommes. Lorsque Jésus dit à la fin du verset 27, « Alors il rendra à chacun selon ses œuvres », il est en train de citer le psaume 62. Dans le psaume 62, David nous dit, « Yahvé est celui qui rend à chacun selon ses œuvres. L'Éternel est celui qui rend à chacun selon ses œuvres. » Jésus dit, « C'est moi qui vais revenir avec mes anges pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Je vous le dis, la divinité de Christ est à peine voilée dans le passage ici. Ça nous parle de la gloire de ce Sauveur que nous avons. Ce qu'on a chanté tantôt dans le chant. Notre Sauveur est un Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu est un Sauveur. Ce passage est important parce que Christ déclare sa gloire. Le Père vient éclairer Pierre, et à partir de là, Jésus s'emballe et il nous déclare sa gloire et sa beauté et sa grandeur. Et c'est ce Sauveur-là qui est notre Sauveur. Maintenant, pour être un peu plus pratique, le passage est important aussi parce qu'on voit à travers le passage le cheminement d'un disciple de Jésus-Christ. Pierre est non seulement le représentant des apôtres, je pense que Pierre est aussi un beau type, un beau représentant des disciples de Jésus-Christ. Si on revient au début du passage, lorsqu'il fait cette déclaration au verset 16, puis après ça, le verset 17, Pierre fait cette déclaration, et qu'est-ce que Jésus dit? Quel est le commentaire de Jésus? Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est ça un disciple de Jésus-Christ. Un tout petit peu avant, Jésus était avec les docteurs de la loi, puis les docteurs de la loi, qu'est-ce qu'ils disaient? Donne-nous des miracles, fais-nous un tour de magie. Fais-nous un show, on veut voir que tu es vraiment le magicien que tu dis que tu es. Fais-nous un miracle, là on va croire en toi. C'est très ironique parce que Jésus en avait fait un paquet de miracles. Mais ce que Jésus déclare ici, c'est que celui qui va croire en lui va le faire par une révélation de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ma propre intelligence. Ce n'est pas trésor national devenir chrétien. Où là, tu mets toute ton intelligence là-dedans, puis tu t'en vas découvrir un secret caché depuis des millénaires, annoncé à travers les prophéties. J'ai découvert le trésor de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur des hommes. Vous connaissez le film Trésor national? Beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance, puis boum, tu découvres le trésor caché depuis des siècles. Non, celui qui le découvre parce qu'il reçoit une révélation de Dieu. Et lorsqu'un individu passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, lorsqu'un individu tout d'un coup réalise que Jésus-Christ est le sauveur des hommes, c'est parce que Dieu est intervenu dans sa vie. Parce que nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes étrangers à Dieu. C'est Dieu qui vient nous révéler ces choses. Maintenant, si je veux être juste avec Pierre, je vais quand même faire une distinction entre Pierre et les pharisiens, parce que Pierre était un jour dans la foule. Si Jésus était ici en train d'enseigner, Pierre aurait été à quelque part dans la foule, puis il y aurait eu des pharisiens dans la foule aussi, et puis il y aurait eu deux attitudes différentes, parce que lorsque Jésus lançait des appels, lorsque Jésus invitait dire humblement, peut-être qu'on a trouvé le Christ. Alors que les autres étaient là, sur la défensive, en train d'essayer de prouver que c'était faux. Les Écritures nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et ça, je vais le concéder à Pierre. Cette révélation qu'il a plus tard est quand même le résultat d'un cheminement aussi, où il a dit oui. Il a continué à persévérer. Il a ouvert son cœur. Il a disposé son cœur. Alors, si ce matin, tu es ici, puis à la première question que j'ai posée tantôt, est-ce que tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ? Si vous ne pouvez pas répondre encore par l'affirmative, avec conviction, dire « Moi, je suis chrétien, j'ai reconnu en lui le Christ, j'ai l'assurance de la vie éternelle, je sais que je vais aller au ciel pour l'éternité. » Ne vous arrêtez pas à dire « Mais je le serai quand Dieu me le montrera. » Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ouvrez votre cœur, cherchez, posez des questions. Dites à Dieu, manifeste-toi à moi. Fais-moi connaître qui est ce Jésus. Est-ce que c'est vraiment le sauveur des hommes? Est-ce qu'il y a vraiment un seul chemin pour aller au ciel? Il y a tant de religions sur la terre. Il y a d'autres gens qui ont dit des choses sages. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens d'aller au ciel? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouvrez vos cœurs si vous voulez vous retrouver dans cette position, celle de Pierre, où un jour l'Esprit-Saint va saisir votre cœur. Vous allez tomber à genoux, puis vous allez dire, t'es définitivement le sauveur des hommes parce qu'il n'y en a aucun autre qui est venu faire ce que tu as fait sur la croix. Aucun autre qui a vécu comme tu as vécu. Aucun autre qui est mort comme tu es mort. Aucun autre qui est ressuscité d'entre les morts. Alors Pierre avait eu cette ouverture de cœur. Mais en même temps, Pierre représente tellement bien les disciples parce qu'on entre dans la foi parce que Dieu se fait connaître à nous. Mais ça, c'est suivi de nombreuses rechutes, n'est-ce pas? C'est ce même Pierre qui reçoit une révélation incroyable, et puis là, Jésus même va s'emballer, va l'honorer. Et quelques instants plus tard, lorsque Jésus lui dit, « Ok, t'as saisi que je suis le Messie, c'est merveilleux. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que t'as pas tout compris encore. » Et là, Jésus va lui dire, « Ce roi-là, là, que vous attendez, là, il va être rejeté par les hommes. Il va être maltraité par les hommes. Il va être crucifié. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce Pierre qui a eu une révélation de la part de Dieu, il y avait la pensée de Dieu en lui quelques instants avant. Et la scène qui nous est décrite, c'est que probablement que Pierre était derrière, rendu à ce point-ci. Jésus a commencé à s'adresser à lui, puis là, il est en train d'enseigner les apôtres sur différentes choses. Et là, Pierre intervient, puis vraiment avec beaucoup d'agressivité. Dans le texte, c'est très clair qu'il est agressif. En québécois, ça serait « Jamais over my dead body ». Tu m'entends-tu? T'es le roi des Juifs, et le roi des Juifs ne sera pas crucifié. Moi, je vais m'opposer à cela. C'est quand même incroyable comme on peut être insensé. Parce que Pierre vient de dire « T'es le Messie, t'es le Sauveur ». Puis après ça, il lui saute dessus pour lui dire « T'es d'un patate, mon vieux ». C'est ça qu'il fait. C'est vrai. Il est tellement agressif que Jésus se tourne vers lui et il dit, « Arrière de moi, Satan! Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Et est-ce que ça ne nous représente pas si souvent où on commence la journée, on considère des situations et on a la pensée de Dieu dans notre cœur? On veut faire ce que Dieu nous demande. Je commence ma journée en pensant à une situation au travail. Je commence ma journée en pensant à un collègue de travail qui est une écharde dans la chair, dans ma vie. Puis je m'en vais et j'ai la pensée de Dieu, tout l'amour de Christ dans mon cœur. Je suis animé par cette pensée-là. J'ai de bons sentiments. Et j'arrive sur le moment, quelques instants après, et c'est le diable qui parle à travers moi. C'est le diable qui me donne toutes sortes de pensées. Et souvent dans les Écritures, la pensée du diable et la pensée de l'homme sont liées ensemble comme ça parce que c'est notre chair qui intervient. Pierre nous ressemble énormément ou nous ressemblons à Pierre, tellement souvent. Alors Jésus lui dit, voici le secret, Pierre. Il va falloir que tu renonces à toi-même. Il faut que tu comprennes que par là où j'ai passé, d'une certaine manière, tu vas devoir y passer aussi. Pour ceux qui sont familiers avec les Écritures, je fais juste une parenthèse en disant, ça ressemble beaucoup à la tentation du diable. Je pense littéralement que c'est pour ça que Jésus s'est tourné vers Pierre et il a dit, arrière de moi, Satan. Le diable avait proposé à Jésus d'être un roi sans souffrance. Pierre lui dit, tu vas régner, mais sans souffrance. Arrière de moi, Satan. Et alors Jésus l'enseigne et lui dit, non, vous ne comprenez pas. Comme je renonce à moi-même, vous allez devoir renoncer à vous-même. Et là, le passage se poursuit au verset 24 en disant, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les gens dans le monde, et je l'entends souvent dans les médias de ce temps-ci, pensent que le christianisme et toute cette image de se charger de sa croix, c'est une espèce de pénitence qu'on est en train de faire. Quelle perversion de l'Évangile, c'est triste comme image. C'est pas ça. Jésus est en train de dire, vous allez devoir vivre dans ce monde-là. Ce monde-là est opposé à moi, il ne croit pas en moi. Et pour vivre selon la pensée de Dieu, vous allez devoir renoncer à vous-même pour être rempli de mon esprit constamment. Et l'image que Jésus prend ici est scandaleuse pour les Juifs parce que l'image qui est donnée, c'est celle de comme vous l'avez vu dans tellement de films, de Jésus qui est en train de porter une partie de sa croix. Ceux qui étaient condamnés régulièrement devaient porter un des morceaux de leur croix. Alors l'image, ce n'est pas celle que je dois aller mourir une fois pour toutes à moi-même. Jésus ne dit pas, il faut que vous soyez crucifiés comme moi. Non, il va falloir que tu te charges de ta croix et que tu la portes, 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 renonçant à toi-même, comme dans quelque temps je vais renoncer à moi-même dans le jardin de Gethsémané. Jésus a dû renoncer à sa propre volonté pour penser selon Dieu. Si Jésus s'était entêté à écouter ses appréhensions, ses craintes de tout ce qui s'en venait, Dieu aurait pu lui dire, tu as la pensée du diable, pas la pensée de Dieu. Mais Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, devant cette tentation de rester propriétaire de lui-même, de sa propre vie, a cédé sa vie. Il a renoncé à lui-même. Alors, Jésus est en train d'enseigner aux disciples, non seulement le Messie va être un Messie souffrant, mais pour que vous me représentiez dans ce monde, dans ce corps de pécheur jusqu'à la fin, vous allez devoir renoncer à vous-même quotidiennement aussi, pour me suivre et marcher dans mes voies. Et remarquez bien ici que la promesse que Jésus donne à la fin, après, lorsqu'il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera », il n'est pas en train de dire que si je renonce à ma vie aujourd'hui, ma journée va bien se passer. Renonce à ta vie, puis tu vas la trouver dans la journée. Tu vas être dans l'abondance. Renonce à ta vie, puis le Seigneur va te donner un travail. Renonce à ta vie, puis tes relations vont bien aller. C'est pas de ça dont il est question ici du tout. Renonce à ta vie, et quand je reviendrai, tu trouveras la vie pour l'éternité. Il n'y a pas de promesse ici pour demain matin, pour le quotidien, d'un évangile de la prospérité. Renonce et Dieu va te donner. Alors, je pourrais aller dans d'autres passages pour montrer que celui qui décide de marcher avec Jésus-Christ et qui est prêt à renoncer même à des relations pour Christ va trouver une famille, va trouver des amis, va trouver la paix dans son cœur, va être soulagé de ses soucis. Il y aurait plein de passages pour dire ça, mais ce n'est pas de cela dont il est question ici. Pour pouvoir suivre le Christ, le Messie, qui est passé par la croix, je dois renoncer à ma propre vie et savoir que je vais aller à contre-courant, comme cette jeunesse, boomerang, à contre-courant non seulement du monde, mais comme on le voit ici chez Pierre, arrière de moi Satan, tu as la pensée des hommes, à contre-courant des pensées de ma chair aussi. Parce que ma chair veut redevenir propriétaire à tout moment dans la journée, puis dire « Non, je vais me faire justice. Il n'est pas question que je renonce ici. Il n'est pas question que je fasse comme toi. Il n'est pas question que je reste dans l'humilité. » La chair veut revenir constamment à l'assaut. Et la voix du disciple, C'est la voie de l'humilité, celui qui renonce à lui-même. Pour qu'un jour, quand Jésus-Christ va revenir, nous puissions entrer dans sa gloire avec lui. Et célébrer avec l'agneau pour l'éternité. C'est à ce prix-là que nous serons des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ? À la lumière de ce passage, ça prend deux choses. Ça prend la déclaration de foi de Pierre. Est-ce que tu as clarifié dans ton esprit qu'il y a un seul Sauveur, il y a un seul Christ, il y a un seul Seigneur, c'est Jésus de Nazareth. Toutes les religions de la terre ne pourront pas te sauver. Un seul est venu mourir sur la croix pour tes péchés. C'est Jésus. Mais ça demande aussi de renoncer à toi-même, à ta propre vie. Être prêt à la perdre pour dire, Père, pas ma volonté, mais la tienne, à tout moment. Et on va tomber comme Pierre. C'est ça la beauté de l'histoire de Pierre. Et plus tard, Pierre va renier le Christ trois fois. C'est à lui que Jésus va dire, paie mes brebis. Je te donne encore plus de leadership, Pierre. Nous avançons par la grâce dans cette vie-là, d'accord? Nous avançons par la grâce et Christ comprend nos luttes et nos combats parce que lui-même est passé par le jardin de Gethsémané. Il a été tenté en tout point avant nous. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Alors on a aujourd'hui un intercesseur auprès du Père pour nous, qui sait qu'on va manquer. Mais pour faire partie de son peuple, il faut croire qu'il est le Christ et renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Après, c'est par sa grâce entièrement. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu m'as donné la liberté, Seigneur. Tu m'as libéré de moi-même, de mes péchés. Tu m'as donné, Seigneur, cette assurance qu'à ton retour, j'entrerai dans ta gloire. J'entrerai dans la gloire du Père. Et tu m'accueilleras et on célébrera la beauté de ton salut pour l'éternité dans cette paix. Et dans cette joie, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Et par ta grâce, un jour, j'ai réalisé, par une révélation de ta part, Seigneur, parce que tu as saisi mon cœur, j'ai réalisé que tu étais mon Sauveur. Je te bénis, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, de nous éclairer afin que nous marchions comme des disciples de Jésus-Christ, nous chargeant de notre croix chaque jour pour avoir la pensée de Dieu en nous plutôt que la pensée des hommes. Sois béni, Jésus. Amen.